Vous êtes sur RTL.
Midi et demi.
RTL Midi.
Le 12-30.
Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans RTL Midi. Voici les titres de ce jeudi 5 août. La décision très attendue du Conseil constitutionnel pour la loi sur l'extension du pass sanitaire. C'est pour aujourd'hui, oui ou non pour l'isolement de 10 jours des personnes testées positives, la vaccination obligatoire des soignants ou encore le contrôle du pass par les restaurateurs. Invité de RTL Midi, maître Christophe Noël, avocat en droit du travail, on se penchera notamment avec lui sur le licenciement des salariés sans pass. Elle vendait des faux certificats de vaccination. Deux jeunes vacataires du vaccinodrome de Bordeaux interpellés. Olympie, le berceau grec des Jeux Olympiques, menacé par les flammes. Les JO et les Bleus qui iront en finale de handball à la grande joie de leur leader, Nicolas Karabatic.
C'est magique, ces moments de joie avec l'équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. C'est magnifique, je suis heureux.
Les Bleus qui ont battu l'Égypte 27 à 23. Des espoirs de médailles en escalade, en karaté et le décathlonien Kevin Mayer toujours en lice pour un podium. Les premières vendanges de l'année, c'est à Fitou dans l'Aude. Nous y serons avec Patrick Tégéraud. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Bénédicte, bonjour à tous.
Ça va mieux dans le sud, mais pour le nord, encore un petit peu de patience.
C'est ça, pour le nord, il faudra patienter encore un peu.
On a l'habitude.
Hein. Avec cette alternance entre passage nuageux et éclairci. Il y en a très belle en ce moment là sur l'île de France, sur le centre, sur le nord Pas de Calais, mais je vous le dis déjà, ça ne va pas durer. Hein. Avant la fin de la journée, de nouvelles pluies reviendront par l'ouest, des pluies déjà sur la Bretagne, sur une partie de la Loire ou encore dans le nord-est. Pour y échapper, vous avez raison, ça ira mieux dans l'extrême sud, du sud de l'Aquitaine à la Méditerranée. La retour du soleil avec beaucoup de vent en revanche sur la Corse, on dépassera les 100 km/h. Puis côté température, allez, ça remonte un peu, 20 à 23 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 25 parfois dans les régions du sud-ouest, et puis 26 à 29 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci Louis, à tout à l'heure avant 13h. La question du jour. Êtes-vous favorable à l'entrée en vigueur du pass sanitaire le 9 août? Vous dites oui à 58%, non 39%. Nous attendons vos appels au 3210. Vos chroniques de l'été, les jeux sont faits. Que deviennent les anciens sites olympiques aujourd'hui? Aurélie Chamerois nous emmène à Barcelone. Et comme tous les jours, on se plonge dans l'enfance de nos champions. La table allongée avec Karine, la maman de Valentin Prade, qui va tenter d'aller chercher une médaille d'or au pentathlon. Ce sera après 13h, juste avant les auditeurs ont la parole. Restez avec nous, vous êtes bien sur RTL.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
C'est le jour du verdict. On attend d'ici la fin de journée la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi visant à contrer l'épidémie avec, vous le savez, l'extension du pass sanitaire. Un texte adopté par l'Assemblée nationale, le Sénat, le 25 juillet dernier. Cette extension est prévue pour lundi prochain pour les cafés, les restaurants, les voyages en avion, les hôpitaux, les centres commerciaux. S'il est validé, un futur hospitalisé devra montrer patte blanche, tout comme le client d'une brasserie. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Quelles seraient les conséquences d'un non du Conseil constitutionnel?
Eh bien, si le texte est retoqué, ce sera un véritable coup dur pour l'exécutif. Un non sera vu comme un camouflet de la part de la plus haute juridiction française. Extension du pass sanitaire, vaccination obligatoire de certains personnels, dont les soignants, sanctions contre les salariés réfractaires, isolement de 10 jours des personnes testées positives. Concrètement, si le texte devait être rejeté, le pouvoir n'aurait d'autre choix que d'abandonner toutes ces mesures ou bien de soumettre une nouvelle version à l'Assemblée et au Sénat. Ce qui, il faut le dire, ne serait pas une mince affaire pour l'Élysée et Matignon, alors que les députés et les sénateurs sont en vacances et que la France connaît une nouvelle vague de contamination actuellement. A l'inverse, si le projet de loi ou ses principales mesures sont validées par la majorité des 9 sages du Conseil, le gouvernement serait alors conforté dans ses choix, sa légitimité renforcée et les mouvements contestataires en seraient, eux, affaiblis.
Alors Jacques, vous avez un peu tâté le terrain. Quel est l'état d'esprit de l'Élysée ce midi?
Plutôt confiant, il faut le dire, à quelques heures de la décision des sages, l'Élysée se dit pas inquiet du sort qui sera réservé à ce texte. Un texte équilibré et enrichi par le travail parlementaire, insiste-t-on dans l'entourage du président. Même sérénité du côté de Matignon, où l'on rappelle que le Premier ministre lui-même a saisi le Conseil constitutionnel. Pas de crainte de censure totale, relativise un proche de Jean Castex. Les décrets d'application sont prêts pour être publiés au plus tard lundi matin, même si ces mêmes conseillers de l'exécutif disent s'attendre éventuellement à des recommandations, des demandes de précaution de la part des sages.
Merci beaucoup. Jacques Serret du service politique de RTL. Les anti-pass sanitaires, en tout cas, eux y croient, mais ils ne sont pas nombreux à manifester aujourd'hui, que ce soit à Lyon ou à Marseille. Hugo Hamelin s'est entretenu avec Nicolas Poincarly, aide-soignant et représentant de Sud Santé.
On est tout simplement venu pour manifester le mécontentement lié à l'obligation de la vaccination. On est contre l'obligation, on n'a jamais été contre la vaccination. Vous prenez le sang contaminé, on est un responsable. Vous prenez le Mediator, on est un responsable. Là, Pfizer s'est déclaré non responsable des effets secondaires. On n'a pas assez de longévité sur le vaccin pour l'accepter. Donc nous, on souhaite avoir du temps pour pouvoir méditer à ça. On souhaite voir un petit peu plus de transparence sur la vaccination, sur les effets, les composants de la vaccination, pour pouvoir dire on se vaccine ou pas. Quand vous allez vous faire opérer, vous signez ce qu'on appelle un consentement libre éclairé. Vous êtes d'accord de suivre le soin? Ben là, on n'est pas d'accord. Il n'y a pas de consentement libre éclairé. On nous oblige. L'obligation n'est pas acceptable.
Propos recueillis par Hugo Hamelin à Marseille pour RTL. On précise que plusieurs journalistes, dont Hugo, ont été pris à partie pendant cette manifestation. Invité de RTL Midi, Maître Christophe Noël. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat en droit du travail. On va se pencher avec vous sur la situation des salariés, si vous le voulez bien. Si le Conseil constitutionnel valide la loi et le principe du pass sanitaire, est-ce qu'un chef d'entreprise pourrait interdire l'entrée du site à son employé qui n'a dans sa poche ni certificat de vaccination, ni preuve de test ?
Oui, il aura parfaitement le droit de le faire. Il pourra leur interdire l'accès à leur travail. Et il faut d'ailleurs distinguer la situation des salariés en CDI et ceux qui sont en CDD. Ils ne sont pas traités de la même façon.
C'est-à-dire qu'il y a une différence de traitement?
Complètement. D'ailleurs, ça pose un problème d'égalité entre les salariés en CDD et en CDI. J'espère que le Conseil constitutionnel y mettra bon ordre.
Quelle différence de traitement ça peut avoir? Peut avoir un CDI, que risque-t-il? Un CDD, que risque-t-il?
Le CDI, dans un premier temps, c'est ce que prévoit la loi. S'il n'est pas en règle au niveau du pass sanitaire, l'employeur l'écarte de son travail et ne le paye pas. Mmh. Et ce n'est pas du tout le cas des salariés en CDD, puisqu'eux peuvent faire l'objet d'un licenciement immédiat, sans délai. Alors que normalement, un CDD, on ne peut pas rompre le contrat avant son terme, sauf faute grave. Donc on a inventé un motif pour l'occasion, ce qu'on appelle un motif sui generis, pour les salariés qui sont en CDD et qui sont quand même les salariés les plus nombreux. Hein. La plupart sont en CDD dans le domaine de la restauration et des cafés-hôtels.
Et ça, vous pensez que ça peut être retoqué par le Conseil constitutionnel ?
Retoqué. Je pense que le Conseil constitutionnel devrait en principe émettre des réserves d'interprétation sur cette rupture d'égalité, en tout cas donner des orientations pour que justement il n'y ait pas cette rupture d'égalité entre les salariés.
Alors, le point sensible pour le CDI, donc le poste auquel il devra être affecté, ne devra pas être en contact avec le public. Ce n'est pas toujours évident.
Surtout dans les domaines dont on parle.
Bien sûr.
Je vois pas comment quelqu'un qui travaille dans un restaurant ne peut pas être en contact avec le public. Alors, le législateur a prévu des mesures qui sont complètement théoriques, impraticables. Il prévoit que l'employeur doit avoir un entretien avec son salarié pour évoquer avec lui des possibilités de reclassement sur des postes sur lesquels il n'est pas en contact avec la clientèle. Ça peut concerner que les grandes entreprises qui ont des activités diversifiées, mais ça concerne évidemment pas les domaines d'activité dont on parle.
Oui, parce qu'à ce moment-là, le salarié devra rester chez lui.
Mais bien sûr.
Sans salaire. Oui.
Sans salaire. Ce qui pose un deuxième problème sur lequel le Conseil constitutionnel devrait se pencher, c'est qu'il s'agit d'une sanction financière déguisée, alors que normalement, on n'a pas le droit de sanctionner un salarié pour des faits qui relèvent de sa vie privée.
Et si ça passe, vous craignez des recours au prud'homme ?
On craint que ça. Oui. Il y aura évidemment des recours qui sont considérables, avec une incertitude juridique qui est majeure, puisqu'on ne sait absolument pas ce que vont devenir les salariés en CDI qui verront leur contrat suspendu. Est-ce qu'ils seront licenciables ou pas? Moi, je pose la question, je suis avocat en droit du travail, je suis incapable de vous répondre. Et je vous dirais que le législateur lui-même, c'est pas ce qu'il fait, puisque vous avez d'un côté la ministre du Travail qui vous dit qu'il serait licenciable,
oui.
Et l'un des rapporteurs de la commission mixte paritaire qui s'appelle Philippe Bas vous dit que non, il ne serait pas licenciable. C'est-à-dire que les gens qui ont rédigé la loi ne savent
même pas.
Ils ne sont même pas d'accord entre eux pour savoir s'ils sont licenciables ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les praticiens du droit du travail? On va se retrouver avec des dossiers, avec des salariés qui vont contester leur éventuel licenciement. Et comme la loi n'est pas claire, vous avez des juges qui vont dire « Oui, ils sont licenciables, je légitime le licenciement », et d'autres qui diront le contraire,
d'accord,
qui sanctionneront les employeurs. Donc il y a une incertitude juridique, là aussi, il faut que le
Conseil constitutionnel... Il y a un
imbroglio.
Il faut qu'il se penche là-dessus. Merci beaucoup Christophe Noël d'avoir été l'invité de RTL Midi. Je rappelle que vous êtes avocat en droit du travail. Et justement, on parlait du pass sanitaire, il y a un faux trafic de faux certificats de vaccination. Ça se passait au cœur même du vaccinodrome de Bordeaux-Lac. Deux jeunes femmes de 18 et 20 ans ont été interpellées lundi dernier. Philippe Demaria, ces deux vacataires du centre de vaccination, fournissaient donc des certificats pour 50 à 300 euros.
Ah oui, tarifs variables, parce que des ristournes étaient accordées à certains clients et même des tarifs de groupe pour ceux qui achetaient plusieurs attestations. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'une des vacataires payée 1500 euros par mois au vaccinodrome aurait été contactée par une connaissance, une personne qui ne souhaite pas être vaccinée mais redoutant les interdictions du pass sanitaire. La jeune femme va discrètement remplir des demandes de vaccination dans le parcours du vaccinodrome, éditer les documents comme quoi les personnes ont bien été vaccinées alors que les doses sont évidemment restées dans les flacons. La remise des documents se fait comme dans un film sur le parking d'un supermarché, moyennant du cash, repéré alors qu'elle imprime une attestation. Elle est interpellée par la Sûreté de Bordeaux avec une autre vacataire plus jeune qui ne reconnaît elle que deux attestations fictives. Une quinzaine de faits délictueux leur sont reprochés en tout. Elles seront toutes deux convoquées en janvier devant le tribunal correctionnel de Bordeaux pour faux et corruption passive.
Mais Philippe, les clients aussi risquent d'être poursuivis.
Exactement, 11 d'entre eux auraient été identifiés. Ils ont payé, rappelons-le, de faux documents, parfois plusieurs centaines d'euros pour éviter d'être gratuitement vaccinés. Et le parquet de Bordeaux va les poursuivre pour usage de faux par ordonnance pénale. C'est une procédure rapide.
Merci Philippe de Baria, merci pour vos précisions à Bordeaux pour RTL. En attendant, eh bien Emmanuel Macron continue de se filmer pour faire de la pédagogie sur le vaccin, cette fois sur la terrasse du fort de Brégançon pour une vidéo publiée ce matin sur TikTok, sur Instagram. Le président de la République confirme qu'une troisième dose de vaccin est bien envisagée à partir de la rentrée. Pas pour tout le monde, précise-t-il, pour les plus fragiles et les plus âgés.
RTL Midi, Bénédicte Tassard.
Il a en sa possession les données d'1 million de cartes bancaires italiennes, turques, canadiennes, mais aussi celles de 40 000 Français. Un hacker vient de mettre en ligne gratuitement la liste de ces cartes avec les 16 chiffres, la date de validité, l'adresse postale, l'adresse électronique et parfois même le numéro de téléphone du détenteur. Vous faites partie des victimes de ce hacker ou d'un autre. Votre carte bancaire est piratée. Comment réagir? Voici les conseils de Maxime Chipois de MoneyVox. Spécialiste de la protection des consommateurs dans le domaine financier.
La première chose quand on a une opération frauduleuse qui passe sur son compte, c'est de prévenir sa banque afin de commencer les démarches de remboursement. Puisque très souvent, si vous n'avez pas validé une opération, ce sera à la banque de vous rembourser, puisque c'est elle qui sera responsable des conséquences de la fraude. Le plus simple, c'est encore de complètement changer de carte bancaire et de changer de numéro de carte bancaire, parce que s'il y a eu une fraude qui est venue une fois sur cette carte bancaire, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que les numéros de carte bancaire de votre carte bancaire tournent sur Internet et donc que des fraudes risquent de se reproduire. Il est souvent conseillé de porter plainte parce que ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est un suivi statistique de la fraude. Ça permet aux autorités de mieux se rendre compte de l'ampleur de la fraude. Et puis après, ça permet aux autorités de police et de gendarmerie de remonter des filières et d'avoir des faisceaux d'indices pour savoir qui est à l'origine de cette fraude. Malheureusement, ça ne veut pas dire que les fraudeurs vont être arrêtés, puisque très souvent, la fraude a pour origine un pays très très lointain sur lequel les autorités de police n'ont pas forcément les moyens d'intervenir.
Maxime Chipois avec Arnaud Touche pour RTL. On peut continuer cette conversation sur la fraude des cartes bancaires un petit peu plus tard, après 13 heures, dans les auditeurs ont la parole. L'homme grièvement blessé hier soir par le tir d'un policier est décédé. Il avait été neutralisé après deux refus d'obtempérer à un contrôle routier. Ça s'est passé dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Le chauffard avait percuté un policier et faisait une nouvelle manœuvre pour repartir quand un gardien de la paix a tiré au niveau de la portière. À l'étranger, les incendies en Grèce. 118 feux, deux sites sont particulièrement préoccupants aujourd'hui. Sur l'île d'Eubée, à 200 km d'Athènes, les flammes sont violentes. Des centaines de maisons ont brûlé, 90 personnes ont été évacuées par la mer. Les forces de l'ordre ont dû également obliger les religieux du monastère Saint-David à quitter les lieux. Et puis, dans le Péloponnèse, on s'inquiète pour le site archéologique d'Olympie, Alexia Kefalas.
Oui, une question se pose ce midi. Le site des Jeux Olympiques de l'Antiquité, situé à Olympie, dans le Péloponnèse, va-t-il finir en cendres? D'énormes moyens au sol et aériens sont mobilisés, dont 6 hélicoptères, des avions bombardiers à eau, une cinquantaine de véhicules et quelques 200 pompiers, sous des températures dépassant les 43 degrés. Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, est en train de se rendre sur place et il a même dépêché l'armée, alors que des communes bondées de touristes à cette époque sont en train d'être évacuées. Et il faut faire vite, une vingtaine de maison a déjà brûlé et les flammes attisées par des vents violents se rapprochent dangereusement du site archéologique, du stade antique et du musée d'Olympie. La langue de feu menace aussi d'autres régions à travers le pays. Les autorités appellent Grecs et touristes à s'éloigner le plus rapidement des zones touchées.
Alexia Kefalas en Grèce pour RTL. Aux États-Unis, la moitié des voitures vendues seront électriques, hybrides, rechargeables ou à hydrogène d'ici 9 ans. 9 ans seulement, Joe Biden l'a fait savoir aux trois grands constructeurs américains, Ford, General Motors et Stellantis. Tout de suite, on part à Tokyo.
RTL à Tokyo.
Les Bleus seront en finale de handball et donc assurés d'une médaille. Nos handballeurs viennent de battre l'Égypte, qualifiée en demi-finale de hand contre l'Égypte. Oui, bien sûr, 27 à 23. Ce sera leur quatrième finale consécutive aux Jeux Olympiques. Écoutez la joie de la légende du handball français, Nicolas Karabatic, au micro de France Télévisions.
C'est fabuleux. Ah, je pense qu'on... Ah, je réalise pas encore. C'est magique. C'est moment de joie avec l'équipe. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le sport court. On s'est battu. Ça a été un match très difficile. Les Égyptiens ont très bien joué. Ils se sont battus. Et nous, on a tenu tout le match. On a réalisé une grosse performance. C'est magnifique. Je suis heureux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nora, ma petite fille qui a 3 ans. Donc, je lui fais un gros bisou. Je suis très heureux. On pouvait pas perdre aujourd'hui.
Nicolas Karabatic, deux autres demi-finales pour les sports collectifs pour les Français aujourd'hui à 13h, ben on se voit bientôt dans quelques minutes, ce sera le basket contre la Slovénie et en volley à 14h contre l'Argentine. Et puis il se rapproche du podium, Kevin Mayer, quatrième au classement général pour le décathlonien après 8 épreuves sur 10. On attend le javelot dans quelques minutes et le 1500 mètres à 14h40. Isabelle Langer, bonjour.
Bonjour Bénédicte.
Je vous dis bonjour ou bonsoir pour vous?
Je ne sais même plus quelle heure il est.
Courage Isabelle, vous avez un petit peu de temps pour nous parler donc de Kevin Mayer. Peut-on parier sur une médaille? Kevin Mayer, on le sait, est toujours blessé au dos. Vous le sentez comment Isabelle?
Écoutez, déterminé, motivé pour aller chercher une deuxième médaille olympique après l'argent de Rio, ce ne sera pas l'or qu'il convoitait, car son dos l'a diminué physiquement et l'a empêché de défendre ses chances à 100%. Mais avec les deux dernières épreuves, Kevin Mayer peut espérer effectivement monter sur le podium, car il est plus fort dans ces deux disciplines que les deux concurrents qu'il précède au classement, l'Australien Moloney et le Canadien Lepage. Il peut donc reprendre des points précieux, comme l'explique Alain Blondel, l'ancien champion d'Europe de décathlon.
Pour lui, l'objectif, c'est d'essayer de lancer 10 mètres plus loin que ces deux garçons. S'il arrive à le faire, la deuxième place est quasiment garantie. Par contre, s'il reste aux alentours de 5-6 mètres, ça sera le bronze, sûr. Et après, ça se jouera sur le 1500 mètres. Je suis relativement serein. Si Kevin ne se blesse pas d'ici là, je crois qu'il y a une médaille qui est garantie. Pour Kevin, maintenant, c'est de savoir de quelle couleur sera le métal.
Et voilà, Kevin Mayer va devoir donc encore serrer un peu les dents, Bénédicte, mais à la clé, il y a quand même une médaille olympique. Et franchement, après ces deux journées de souffrance, ce serait une sacrée belle récompense.
Merci beaucoup Isabelle. Enfin, on se tourne vers l'escalade avec le dernier Français en lice, Michael Mahouen. Il reste une épreuve sur trois dans le combiné. Est-ce que Mahouen a une chance, Nicolas Burnand?
Absolument, le tricolore très à l'aise sur cette épreuve de bloc, sa spécialité. Il est champion d'Europe, on l'a vu escalader les différentes voies doucement, un pied devant l'autre. Les dents serrées, biceps et mollets contractés, le corps collé contre la paroi, puis bondir jusqu'au sommet, impressionnant d'aisance. Tout à l'heure, Michael Mayhem a réalisé une bonne première épreuve dans cette finale, celle de la vitesse, 15 mètres de mur avalé en 7 secondes. Son grand frère Bassaella dans les tribunes pour l'encourager, blessé à la main, forfait pour cette finale. Le frangin a inscrit: allez mon frère, tu es un champion, au feutre noir sur son maillot. Inséparables, ils ont construit leur carrière ensemble, sa présence doit forcément le booster. La dernière épreuve, celle de la difficulté, se jouera au mental. Le français est pour l'instant sur le podium, deuxième place provisoire, mais attention, le comptage des points est complexe et cela bouge tout le temps selon les performances de ses adversaires, ce qui fait l'attrait de ce nouveau sport olympique que je dois vous avouer franchement captivant.
Et on le découvre ensemble, merci beaucoup Nicolas Burnand. Avec Isabelle Langer, vous êtes les envoyés spéciaux de RTL à Tokyo. On n'oublie pas, on refait les Jeux présentés à 18h30 par Christian Olivier et Jean-Michel Rascol. Il est 12h49 sur RTL. Retour en France avec les premiers coups de sécateur ce matin pour les vendanges 2021. Les premières de France et comme chaque année, ça se passe dans l'Aude, à Fitou. Depuis 8h ce matin, on récolte du muscat petit grain, Patrick Tégéreau. Un cépage de plus en plus précoce vu le réchauffement climatique.
Ce matin, dès 8h, c'est Marie Ménadier qui a donné le premier coup de sécateur pour récolter de belles grappes dorées.
Les muscats petits grains, qui sont un cépage relativement précoce et prêt à faire un vin blanc sec, fruité et pas très alcoolisé.
Agenouillé devant les cèpes, Jean-François a le sourire.
Ouais, moi, je prends beaucoup de plaisir avant de manger. Il y a la terre, il y a le raisin, le fruit, et puis c'est tout le travail en fait, d'une année. On voit mûrir le raisin tout doucement, on voit toute la végétation aussi s'épanouir. C'est un plaisir.
Le propriétaire du champ des sœurs, Laurent Ménadier, vide sa comporte.
Ménager le 5 août, c'est déjà tôt. C'était tôt il y a 10 ans. C'était particulièrement tôt et impossible pratiquement il y a 20 ans. Le réchauffement est là, il est partout. C'est vrai que cette année, on n'a pas eu de grosses chaleurs, mais on voit bien que le cycle de la vigne a avancé. N'oubliez pas que l'an dernier, nous avons vendangé fin juillet.
Ici en vendange, parcelle par parcelle, cépage par cépage et même grain par grain, donc obligatoirement à la main.
Tant qu'on peut le faire, tant qu'on s'y retrouve aussi financièrement et en plaisir, je préfère ça qu'un moteur qui bourdonne et qui sent pas bon.
Et c'est donc parti pour 2 mois de vendange minutieuse.
Patrick Tégéro à Fitou pour RTL. Avis aux vacanciers, une idée de sortie cet après-midi si vous êtes du côté de l'estuaire de l'Orne. Le groupe mammalogique normand et sa brigade FOC vous proposent d'observer ces mammifères marins de plus près. Ils sont une vingtaine de bénévoles à veiller sur les phoques qui repeuplent la zone depuis 7 ans maintenant. Esteban Pinel s'est approché également au plus près.
Ils sont là, à 800 mètres en face de nous.
Ah, il y en a un qui est très bien sorti.
Il y en a jusqu'à 23.
Il y en a un autre qui est sorti. Ils ont 4.
Attendrissement garanti pour cette jeune touriste.
C'est mignon parce qu'on ne voit pas ça tous les jours.
Ces phoques se prêtent là sur leur banc de sable favori. Jessica de la brigade phoque nous fait les présentations.
Ici, dans l'estuaire de l'Orne, on observe essentiellement des veaux marins. Et on a également un phoque gris qui, de temps en temps, passe également leur dire bonjour. Je suppose que ce matin, ils sont allés pêcher. Donc là, c'est le moment de faire une petite sieste, de faire du gras. En gros, ils sont allongés et ils ne bougent pas.
Un phoque allongé sur le sable, c'est donc normal. Ça ne surprend guère Marion, venue de région parisienne, curieuse mais bien informée.
C'était notre objectif aussi de les voir, mais c'était une chance de pouvoir les voir au bon moment. C'est vrai que ça peut surprendre, mais c'est quelque chose de top d'en avoir dans plusieurs régions de France.
Mais la pédagogie est nécessaire. Les phoques ne sont pas des doudous. Le message des bénévoles aux promeneurs.
Il ne faut pas s'en approcher parce que déjà c'est une espèce protégée, donc c'est interdit par la loi. C'est une espèce qui est assez calme, mais si on va la déranger volontairement, oui, là elle peut se défendre et stresser et attaquer et mordre.
23 phoques vivent autour de l'estuaire de l'Orne, précisément parce qu'ils s'y sentent bien. Finalement, ils sont un peu comme nous, humains, quand on bronze sur son banc de sable.
Allongé sur le dos, patte en l'air, qui fait la banane.
On préfère avoir la paix.
Le reportage dans le vent d'Esteban Pinel. Sachez que cette brigade est présente tous les jours à Salonelle, près de Ouistreham, pour répondre à vos questions.
RTL. Les jeux sont faits.
Les jeux sont faits.
Il y a Tokyo aujourd'hui, il y avait Barcelone en 1992. Les jeux sont faits tous les jeudis. On revient sur ces villes olympiques. Que sont-elles devenues ? Les JO leur ont-elles été profitables ? 30 ans après, Barcelone reste profondément marquée. Balade dans la capitale catalane avec Aurélie Chamerois.
Sur les hauteurs de Barcelone, la piscine olympique avec la ville en arrière-plan avait fait rêver des millions de téléspectateurs. Elle est devenue une piscine municipale plutôt animée en période de vacances.
Nous sommes ici dans une piscine avec un bassin couvert et un bassin olympique en plein air qui sont ouverts au public et qui compte aussi plus de 7000 abonnés l'utilisant régulièrement.
Gabi Arantz est en charge des événements sportifs pour la mairie de Barcelone.
Durant les Jeux, on a construit 14 installations qui sont maintenant à la disposition des habitants. Mais l'autre aspect, c'est que dans les enquêtes municipales, 76% des Barcelonais indiquent qu'ils pratiquent un sport d'une manière ou d'une autre, au moins une fois par semaine. Et ça, c'est l'héritage immatériel des JO.
C'est ici, sur cette même colline qui surplombe la ville, qu'ont été érigées la plupart des installations olympiques encore utilisées aujourd'hui par les Barcelonais. À 2 pas de la piscine, le Palais des Sports accueille les plus grands concerts. Madonna, Coldplay, Lady Gaga ou encore U2 sont passés par là. Mais à Barcelone, les JO ont aussi permis de moderniser les infrastructures. Emilio Fernandez Peña est directeur du Centre d'études olympiques à l'Université de Barcelone.
Il y a eu un avant et un après Jeux olympiques. Regarde par exemple les 2 périphériques construits pour les Jeux sont encore les 2 axes principaux de circulation de la ville. Et cette zone du village olympique a permis de récupérer une zone dévastée où il y avait beaucoup d'industries très polluantes qui détruisaient la zone côtière. Et nous avons récupéré cette zone grâce aux Jeux Olympiques.
Le quartier du village olympique qui porte encore ce nom est très couru des expatriés mais aussi des touristes pour ses résidences avec piscine à 2 pas de la plage. Barcelone a totalement remodelé son front de mer pour les JO et créé 2 kilomètres de plages supplémentaires.
La création d'une image de marque mondiale qu'ont permis les Jeux Olympiques a entraîné une amélioration économique, une croissance du PIB dans le secteur touristique qui a créé des postes de travail et en général a amélioré le niveau de vie des habitants.
Le tourisme est devenu le principal moteur économique de Barcelone. Clara Mas est guide touristique. Elle avait 13 ans en 92.
Barcelone, avant les Jeux Olympiques, était une ville plutôt grise. On doit penser qu'on sortait d'une quarantaine d'années de dictature. Alors, c'était une ville au niveau physique et aussi au niveau psychologique plutôt grise. Et après les Jeux Olympiques, on a senti qu'on avait une belle ville. On a pris conscience de la ville qu'on a. On a commencé à être fiers de la ville de Barcelone.
Depuis, le nombre de touristes a été multiplié par 7 jusqu'à en devenir un vrai problème pour les Barcelonais. Les habitants des quartiers maritimes, la Barceloneta et le village olympique manifestent régulièrement contre un tourisme festif qui leur gâche la vie.
On a expérimenté dans ce quartier une, disons, massification touristique qui a tout à fait changé carrément la vie au quartier. C'est vrai que c'était plein de discothèques, mais il y a l'idée de la mairie de Barcelone de changer carrément l'usage de ces parties de la ville et en faire un endroit pour les Barcelonais.
La Catalogne prépare sa candidature pour les JO d'hiver de 2030, des Jeux qui se tiendraient entre Barcelone et les Pyrénées catalanes, dans l'espoir de moderniser aussi la région.
Aurélie Chameroy, les Jeux sont faits. C'est une chronique à redécouvrir sur RTL.fr. Une pause et dans un instant, on regarde le ciel. RTL.fr. Les auditeurs ont la parole, c'est dans quelques minutes, c'est votre émission, vous en choisissez le thème dans l'actualité, ce qui vous interpelle, ce qui vous intéresse. Le pass sanitaire, bien sûr, passé au crible par le Conseil constitutionnel, est-il liberticide? Le gouvernement va-t-il devoir recevoir déjà le feu vert des sages? Décision attendue aujourd'hui, le pass et son contrôle étendu au café, au restaurant, la vaccination obligatoire de certains personnels, dont les soignants, les sanctions contre les salariés qui refusent le pass, un chef d'entreprise pourra-t-il les limoger? Les données bancaires de 40 000 Français, plus généralement d'un million de personnes dans le monde, viennent d'être mises en vente sur Internet, sur le Darknet, comme on dit. Tout y est. Les 16 chiffres de votre carte de paiement, leur date de validité, votre adresse électronique. Trouvez-vous que nos données bancaires sont assez protégées? Avez-vous été victime de fraudeurs? On parle de tout ça juste après 13 heures. Le standard de RTL vous attend. La météo, Louis Baudin, encore des averses dans beaucoup de régions cet après-midi.
Oui, exactement. Bah, il pleut déjà là sur la Bretagne, la Normandie, la vallée de la Loire, de la pluie également dans le nord-est, entre la Champagne, la Lorraine, l'Alsace ou encore la région Franche-Comté. Entre les deux, une petite accalmie, mais évidemment, les pluies dans l'ouest, là, elles vont circuler pour arriver sur l'Île-de-France, le Nord-Pas-de-Calais, le centre en cours d'après-midi. Pour échapper à cette nouvelle dégradation, il faudra être dans l'extrême sud. Là, ça va beaucoup mieux, du sud de l'Aquitaine à la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par rapport à hier où on a eu beaucoup de pluie, ben là, ça y est, vous avez retrouvé déjà du soleil, mais également beaucoup de vent, notamment sur la Corse où les rafales atteindront ou dépasseront les 100 km/h cet après-midi. Tout cela dans une ambiance encore assez fraîche, même si on gagne 1 ou 2 degrés par rapport à hier, 20 à 23 degrés dans la moitié nord, jusqu'à 25 parfois dans le sud-ouest et 26 à 29 degrés près de la Méditerranée.
Et demain, Louis, ça ira un petit peu mieux?
Un peu mieux ou un peu moins mal, sera à vous de choisir, mais c'est vrai globalement quand même, après quelques passages nuageux encore denses le matin, l'après-midi, on pourrait espérer quelques belles éclaircies dans toutes les régions. Bon, encore accompagné de quelques averses, notamment au nord de la Loire et dans le nord-est, mais dans la moitié sud, confirmation de l'amélioration avec là un temps franchement plus sec et plus ensoleillé. Évidemment, auprès de la Méditerranée, ça sera souvent du grand ciel bleu. Encore un peu de vent aux extrémités de la Corse, puis les températures en légère hausse, 21 à 24 degrés dans la moitié nord. On n'est pas encore génial en valeur de saison, mais on s'en rapproche. Oui, bah oui, on se contente de ce qu'on peut. Jusqu'à 25 degrés dans le sud-ouest et on frôlera à nouveau les 30 degrés près de la Méditerranée.
Alors nous, on dira que ça ira mieux.
Oui, on dirait que ça ira mieux, puis ça se confirme à partir de dimanche.
Merci beaucoup, Louis. Merci. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Bénédicte Tassard.
Dans quelques minutes, vous avez la parole. Mais d'abord, le rappel des titres de l'actualité. L'exécutif face au Conseil constitutionnel. Ce dernier rend aujourd'hui sa décision sur la loi relative à l'extension du pass sanitaire. De nombreux points en suspens sur l'obligation vaccinale des soignants, le contrôle du pass à l'entrée des restaurants ou encore le licenciement possible d'un CDI. Les informations bancaires de 40 000 Français mises en ligne gratuitement sur le Darknet, le hacker veut faire sa publicité. Les pompiers grecs toujours en lutte contre deux incendies préoccupants à Olympie et sur l'île de Bé. Nous faisons un effort titanesque, affirme le ministre de la Protection civile. Des Jeux olympiques, toujours 25 médailles pour ce 12e jour de compétition, mais la récolte s'annonce fructueuse dans les prochaines heures. Les Bleus qualifiés pour la finale de handball, une médaille assurée aussi en karaté, pourquoi pas en escalade. Dans quelques minutes, Kevin Mayer lancera le javelot, 9e des 10 épreuves du décathlon. On vous retrouve à 18h30 dans On refait les Jeux, présenté ce soir par Christian Olivier et Jean-Michel Rascol.
La table allongée sur RTL.
Et sur cette table allongée aujourd'hui, Valentin Prade qui va tenter de décrocher l'or au pentathlon à Tokyo. Le pentathlon, 5 épreuves, escrime, natation, équitation, combiné course à pied et tir. Isabelle Langer vous propose un portrait de Valentin dessiné par sa maman, Karine. Petit secret, anecdote, c'est parti.
Chapitre 1, un bébé de cinéma.
Karine, Valentin est né le 26 septembre 1992 à Cannes. Vous vous souvenez de ce jour-là ?
Ah oui, bien sûr, c'était un samedi. Mes contractions ont commencé en début d'après-midi et j'ai accouché le soir 8h30. Le gynécologue était en soirée et il est venu et il m'a accouché. Il m'a dit c'est très bien, je peux repartir. Donc il est né très facilement.
Un beau bébé ?
Un beau bébé, 3,820 kg, 52 cm. Magnifique. Un bébé de cinéma. Bon, un petit peu après, hein, parce qu'à la naissance, c'est toujours un peu compliqué.
C'était un bébé comment ? Capricieux, sage ?
Très joyeux, pas du tout capricieux, facile à vivre.
Il a parlé à quel âge ?
Il a parlé assez tôt, et puis il a une petite sœur, il avait à peine 13 mois, donc ça l'a bien motivé pour marcher, pour discuter, et pour faire plein de choses avec sa sœur.
Et donc il a une petite sœur ?
Il a deux sœurs. Il a une sœur qui a 13 mois de moins que lui, qui s'appelle Marion, et il a une autre sœur qui s'appelle Charlotte, qui a 6 ans de moins.
Chapitre 2, un petit garçon actif.
Ça faisait des bêtises à la maison ?
Ça a fait des bêtises, oui, Valentin a fait des bêtises. Genre, on venait d'emménager dans une nouvelle maison, donc le crépi tout neuf et tout, et il a trouvé un rouleau de peinture et un pot, et il est allé faire des dessins derrière le garage pour nous décorer le nouveau crépi.
Vous vous souvenez de son premier jour d'école ?
Alors oui, parce qu'il est rentré à l'école à 2 ans, et donc on l'a laissé avec son petit cartable.
Il était plutôt content d'y aller ?
Oui, oui, il était curieux. Curieux de savoir ce qu'il allait pouvoir faire aussi comme bêtise. Mais bon. À la fin de sa première année, d'ailleurs, c'est lui qui animait en partie le spectacle de l'école, quoi, déjà. Ça promettait, ouais. Très dynamique, toujours, dans ce qu'il faisait.
Il fallait l'occuper, justement.
Il fallait beaucoup l'occuper, ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de sport. Après, on a trouvé bien un moyen de le canaliser en faisant faire de la natation.
Il a fait quoi comme autre sport ?
Du tennis, du judo, du foot, du skate, du ski, beaucoup de ski, parce que le papa est un ancien moniteur de ski, donc il a été très tôt sur les skis. À 2 ans, il était sur les skis. Il aurait pu être champion de ski aussi.
Chapitre 3, pentathlète par hasard.
Comment il vient au pentathlon ?
Par pur hasard. Moi, je regarde un reportage à la télé sur le pôle de Font-Romeu où il présente le pentathlon. Et moi, je dis, mais c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Parce que c'était varié comme sport et ça demandait quand même pas mal de savoir-faire et d'efforts. Et donc, on s'est renseigné sur les inscriptions. Donc, on a téléphoné, on a fait le dossier. Et puis, en fin de compte, il avait aucun temps de course. Bon, il nageait, mais 3 fois par semaine. Mais bon, il avait pas vraiment des performances exceptionnelles, quoi. Donc, on a rempli le dossier. Et puis, il a été appelé pour faire les sélections. Et il a dit, ouais, de toute façon, je serai jamais pris. Effectivement, il y avait que des gamins qui sortaient de club qui faisaient déjà du pentathlon. Et il a été pris. Il connaissait pas du tout le pentathlon. Puis son histoire a commencé.
Chapitre 4, la face cachée de Valentin.
Sa plus grande qualité.
Son mental et son humilité, son honnêteté.
Il a des défauts ?
Il a une grande gueule parfois.
Il a un surnom ?
Moi je l'appelle Poussin, sinon c'est Val.
Qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était petit ?
Il voulait être pilote de chasse.
Quand il revient ici, est-ce qu'il a un péché mignon ? Il dit à maman, faut que tu me cuisines ça.
Alors il adore trouver une quiche Lorraine sur le fourneau quand il arrive. Voilà. Et elle ne fait pas 24 heures. Hein.
Valentin est marié, il est papa d'une petite fille. Il est comment comme papa ?
C'est un super papa. Il s'occupe de tout, quoi. Il gère. Enfin, un papa poule, il avait sur le ventre dès qu'elle est née. Super tendre, quoi.
Épilogue.
Quel est le regard que vous portez sur l'homme qu'il est devenu ?
Bah, je suis très très fière. Et je le trouve très, très beau. Bon, ça, c'est le regard d'une maman, mais il est beau mentalement et il a une belle âme et il est toujours à rendre service, toujours un mot gentil, toujours avenant, enfin, vraiment une belle personne. Quoi.
Karine, vous n'êtes pas à Tokyo ? pour l'encourager. Mais qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui ?
Donne tout, on sera toujours fiers de toi et tu es le meilleur à nos yeux.
Mais même pour nous, c'est le meilleur. Merci beaucoup, la table allongée, mise en nom de signée Spencer Clairefeuille, à retrouver sur notre appli RTL. Dans un instant, on vous ouvre le micro. La décision du Conseil constitutionnel tant attendue sur l'extension du pass sanitaire, ce sera en fin de journée. Est-ce que ce pass est liberticide? Vous nous appelez au 3210. Un nouveau piratage de cartes bancaires à 1 million de personnes. 1 million quand même, dont 40 000 Français voient leurs données bancaires mises en ligne gratuitement sur le Darknet. Craignez-vous vraiment le piratage? Que faites-vous pour vous en protéger? Et puis aujourd'hui, l'équipe des auditeurs ont la parole, voulait rendre un hommage à Jacob Desvarieux de Cassave. Jacob Desvarieux inhumé ce jour. Si vous aimez le zouk, vous nous appelez au 3210 3210. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.